Vous êtes sur RTL. RTL dimanche soir.
Grand jury, le mag avec Vincent Parisot.
Ah, c'est votre rendez-vous politique du dimanche soir, ancré dans notre vie quotidienne, au cœur d'une séance politique historique après l'usage du 49-3 jeudi dernier et au cœur d'une nouvelle mobilisation sociale et syndicale contre cette réforme des retraites. Adopté sans vote à l'Assemblée. Résultat, le gouvernement se retrouve face aux motions de censure de l'Assemblée qui seront discutées demain, à la colère sociale et au risque aussi d'une censure constitutionnelle. Au menu, le grand jury de Jean-Luc Mélenchon et son débrief, le retour des Gilets jaunes, les Républicains dispersés et l'invité de ce dimanche soir, le juriste et constitutionnaliste Dominique Rousseau.
Grand jury, le mag sur RTL.
Et donc Jean-Luc Mélenchon est un invité de ce grand jury RTL, Le Figaro et LCI, en ce moment clé de la vie politique. Trois jours après l'usage du 49-3 pour faire adopter sans vote à l'Assemblée de textes de loi de réforme des retraites. Et après trois journées et soirées de manifestations plus ou moins spontanées et parfois de débordements.
Toutes les raffineries du pays sont bloquées. Tous les ports du pays sont bloqués. Quelles sont les issues possibles? Voter la censure. Pourquoi voter la censure? Les syndicats ont appelé à des actions toute cette semaine. Les syndicats unis, pas M. Mélenchon, pas les Insoumis, pas la NUPES. Les syndicats unis ont décidé d'appeler à une grande manifestation générale et à une grève générale jeudi prochain. D'ici là, il y aura des grèves. Jeudi, c'est trois jours après le vote de la motion de censure. Autrement dit, le signal a été donné depuis les syndicats unis pour dire la lutte continue, quel que soit le résultat. Si bien que voter la censure, c'est en quelque sorte remettre les compteurs à zéro. La vérité, c'est que nous aurons un vote et que les Républicains sont comme tout le monde, au pied du mur d'une situation qu'aucun n'avait jamais imaginée. Un pouvoir qui n'a pas de majorité parlementaire, tant qu'il n'y a pas d'accord de gouvernement avec les Républicains. Or, les Républicains ne veulent pas être alliés de gouvernement de M. Macron. Tout le monde a compris ça, sauf M. Macron, qui pense qu'en tordant le bras de tout le monde, il va arriver à contraindre. Moi, je pense que les Républicains vont voter la censure. Parce qu'ils savent, comme moi, qu'il n'y aura pas de dissolution derrière. Et que, par conséquent, le fait de voter la censure, c'est faire partir Mme Borne. Alors, elle s'en va, la loi s'en va, et puis, bon, on remet tout à plat et on dit, bon, maintenant, à quoi on passe? Le Conseil constitutionnel sait qu'on ne peut pas mettre dans une loi de finances rectificative quelque chose qui modifie la nature même du sujet sur lequel on intervient. Là, c'est la nature du régime des retraites, etc. Toutes les étapes, c'est on tord les bras. Alors, le Conseil constitutionnel, c'est pas non plus un lieu désincarné. Ils savent que leur rôle est de protéger des institutions en les faisant respecter, et ils tiennent aussi compte de ce qui se passe dans le pays. Ne prenez pas le Conseil constitutionnel pour une espèce de bocal dans lequel on tiendrait au chaud ou au frais des gens sans aucun rapport avec la vie de leur patrie. Je crois que c'est le contraire. Donc tout ça sera abrogé à la fin. C'est pourquoi il ne faut pas relâcher la pression un seul jour et toujours aller à l'action, à l'action.
Voilà donc pour l'essentiel les grands moments de ce grand jury RTL de Figaro et LCI de Jean-Luc Mélenchon. On y revient, on débrief avec ses intervieweurs. Olivier Bost, évidemment, qui a mené les débats pour RTL. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Bastien Auger pour TF1 LCI, bonsoir.
Bonsoir.
Marion Mourque pour Le Figaro, bonsoir.
Bonsoir.
Et Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr, bonsoir. Bonsoir. Bon, je compatis un petit peu parce que voilà, il n'est pas, on va dire, l'invité le plus facile à interviewer. Ça n'a pas été évident d'en placer. C'est une, il a fait du Mélenchon, hein, on peut dire ça, Olivier Bost.
Tout à fait, Jean-Luc Mélenchon énergique, en pleine forme, effectivement batailleur avec ses intervieweurs, parce qu'il y a tous les ingrédients en ce moment pour que Jean-Luc Mélenchon soit en pleine forme. Les manifestations, ça commence à chauffer, c'est très compliqué pour le gouvernement, on n'est pas loin d'une crise politique, et il sent qu'à ce moment politique, il doit être là et qu'il a un rôle à jouer. Son objectif, c'est celui d'empêcher la réforme des retraites de passer. Et après, ça ouvre un nouvel espace politique. Et là, il en fera ce qu'il aura envie d'en faire.
Il a l'air persuadé que la réforme ne s'appliquera pas. Tout d'abord, il pense que la motion de censure, en tout cas celle déposée par le groupe Liot, demain, peut être votée. Marion Mourgue, vous vous intéressez vraiment à LR, vous connaissez ça sur le bout des doigts. Est-ce qu'il prend son désir pour une réalité ou est-ce que c'est de la méthode Coué?
La majorité des députés, les Républicains, ne votera pas
pour cette motion de censure déposée par Liotte. Pour l'instant, vous avez des députés LR qui se sont prononcés pour soutenir cette motion, mais ils sont très minoritaires. Et donc Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, il prend ses désirs pour des réalités parce qu'on n'y est pas. Et même quand on le relance sur ce point, il n'entend pas ses arguments. Et donc, de fait, la fin de l'histoire n'est pas la même que celle qu'il aimerait.
Alors, il dit aussi, si la motion de censure n'est pas votée, de toute façon, le Conseil constitutionnel va censurer le texte de loi. Là aussi, est-ce qu'il s'avance un peu vite ou pas, Bastien Auger ?
Il s'avance parce qu'on ne peut être certain de rien et certainement pas du fait que le projet dans son intégralité sera censuré. Après, il ne faut pas nier qu'il y a des interrogations sur une partie du projet, en effet, parce que c'est vrai que le gouvernement a utilisé un texte budgétaire qui est censé avoir une notion d'urgence. Mmh. C'est une hypothèse dont on ne peut pas être certain de savoir si l'ensemble du projet va être censuré. Ça paraît assez peu probable.
Mais on va parler d'ailleurs de tout ça dans quelques minutes avec notre invité, le constitutionnaliste Dominique Rousseau. Mais si moi, tout à l'heure, à la mi-journée, je suis un opposant fervent à cette réforme, que j'écoute Jean-Luc Mélenchon, ben je suis rassuré, parce qu'il m'explique en gros que de toute façon, le texte, il ne s'appliquera pas.
Ben oui, Jean-Luc Mélenchon n'envisage absolument pas l'hypothèse où ce texte peut rentrer en application, où les manifestations vont faiblir. Il dit clairement, ben, les blocages, c'est fortement recommandé pour la France insoumise. Les manifestations spontanées, eh ben, c'est la vie, on n'a qu'à s'y faire. Quoi qu'il arrive, le gouvernement n'aura pas d'autre solution que de retirer son texte et de dire adieu à la réforme des retraites. Mmh.
Reprenons quand même sa première hypothèse, à savoir le vote de la motion de censure. Si Jean-Luc Mélenchon a raison, ça veut dire que le gouvernement Borne tombe, ça veut dire que la loi tombe, est-ce que ça veut dire que l'Assemblée tombe ?
Alors là, c'est intéressant parce que Jean-Luc Mélenchon, jusque-là, aimait toujours la perspective d'une dissolution. Parce que bien évidemment, c'est pour lui la façon de revenir dans le jeu, de devenir Premier ministre. Là, très franchement, aujourd'hui, il n'est pas du tout allé dans cette direction-là. Il a dit qu'il ne croyait pas à la dissolution. On sent beaucoup moins l'envie chez lui de devenir Premier ministre. Ça, c'était un moment intéressant de l'émission, je trouve.
Marion, il n'y a plus acte de candidature. C'est une page qui est tournée. C'était lié à un moment
c'était
du quinquennat.
Du moment des législatives.
Exactement. Ouais. Et donc là, oui, bizarrement, on pourrait s'attendre à ce qu'il fasse campagne même pour soutenir la mobilisation contre la réforme des retraites, pour donner l'impression qu'il y a une nouvelle issue aussi politique qui l'amènerait à Matignon. Et clairement, ce n'est pas son choix, ce n'est pas sa stratégie politique du moment.
Marie-Pierre Haddad.
Et j'ai trouvé que ce grand jury a vraiment été le moment où, vous savez, la position de Jean-Luc Mélenchon de en retrait, mais pas en retraite, a été le plus clair à chaque fois. Parce que, évidemment, il ne dit pas qu'il va être automatiquement candidat Premier ministre si jamais dissolution. Et même par rapport à la France insoumise, il se met complètement en retrait de tous les problèmes qu'il peut y avoir, de purge ou non. Et il se comporte un petit peu comme un professeur d'école qui dirait à ses élèves, arrêtez de faire du bruit dans un cours de récré, on a d'autres choses plus importantes à faire.
Merci, merci Marie-Pierre, merci Olivier Bost, Bastien Auger, Marion Mourgue.
Grand jury, le MAG, Vincent Parisot.
Ce qui est certain, c'est que la donne a changé quand même depuis jeudi et l'usage du 49-3. La radicalisation du mouvement semble s'être engagée, les violences en marge des rassemblements depuis jeudi soir marquent une rupture après deux mois de contestation syndicale sans véritablement de problème dans les manifestations. Donc le scénario d'indurcissement, d'un débordement des syndicats semble aujourd'hui possible. On a vu des barrages filtrants, le périph' parisien occupé, des routes bloquées plus ou moins brièvement et des manifestations souvent spontanées, qui se sont multipliées. En région, on observe ici ou là le retour des gilets jaunes sur certains ronds-points. On en a la preuve maintenant avec ce reportage à Saint-Dizier en Haute-Marne, signé Samuel Goldschmidt.
Elle est revenue sur le rond-point de Marnaval cette semaine, Véronique, mais dans sa tête, elle ne l'avait jamais vraiment quitté depuis 4 ans.
On a enlevé le gilet, mais on a toujours été là. Bah, y a la réforme des retraites, mais pas que. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on va dire.
Et le vase déborde aussi au rond-point des Nations, à l'autre extrémité de Saint-Dizier, où Margarida est de retour.
Retour sur le rond-point, s'il faut y rester, je resterai. Tant qu'ils ne lâcheront pas, bah, on ne lâchera pas non plus, nous.
Est-ce que les choses ont changé en 5 ans ?
Non, ma retraite, elle est toujours à 1200 euros, mais sauf que la baguette de pain, elle est à 80 et aujourd'hui elle est à 1,10€. C'est le changement qu'il y a. l'électricité, le gaz et tout. Bon, ça va, je me chauffe au bois. Mais le bois, il a augmenté aussi, comme tout, comme tout. On a eu gain de cause en 2019, un peu qu'ils ont stationné le carburant, mais après, petit à petit, puis aujourd'hui, il est à 2 euros et personne ne bouge. Puis l'inflation, puis tout, il y a tout, il n'y a rien qui va.
Sur le rond-point, des militants de LFI accompagnent aussi le mouvement.
Je vais vous parler juste un tout petit peu de moi. Mes parents sont morts à 65 et 64 ans. Ils auraient profité de leur retraite ? Non. Donc mettez-vous à notre place, messieurs les puissants. Écoutez-nous un minimum. La souveraineté du peuple, c'est pas seulement une vue de l'esprit, hein. C'est dans la Constitution.
Ils faisaient quoi, vos parents ?
Ah ben, papa, il a travaillé en fonderie et maman, elle a travaillé dans une usine de tuiles. Donc forcément, ils ont été exposés à des produits quand même particulièrement nocifs.
La colère d'Émilie est intacte. Elle ne comprend pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de monde en soutien.
En fait, il n'y a personne qui vient. On ne peut pas tenir un rond-point, surtout avec l'affluence qu'il y a, à 5, 6, même 10, c'est pas possible. Les gens, ils ne se sentent pas concernés. Enfin, je sais pas, on baisse notre culotte et on se fait... Je sais pas, mais au bout d'un moment, il faut que ça arrête. Il faut que les gens, ils se réveillent.
Vous, pourquoi vous êtes là ?
Pour l'avenir de mes enfants, c'est même pas pour moi. Hein. Nous, la retraite, c'est foutu pour nous, mais pour les enfants, pour nos enfants. Aujourd'hui, c'est la retraite, demain, ça va être quoi ? Ils vont nous enlever la sécurité sociale, les congés payés, ils vont nous faire quoi ? Et lui, là-haut, il se frotte les mains et il dit « Tiens, regarde-moi-les, ils sont 4-5 sur un rond-point, il en a rien à foutre. »
Lui, c'est Emmanuel Macron. Le 49-3 sur les retraites n'est qu'une bûche de plus jetée dans le brasier de colère des Gilets jaunes.
Un reportage Grand Jury Le Mag, signé Samuel Goldschmidt. Allez, courte pause et dans un instant, les Républicains entre division et ambiguïté et puis entretien avec le constitutionnaliste Dominique Rousseau. A tout de suite.
Grand Jury Le Mag, Vincent Parisot.
RTL dimanche soir.
Grand Jury, le mag avec Vincent Parisot.
Et on l'a entendu tout à l'heure au Grand Jury, Jean-Luc Mélenchon s'est dit persuadé qu'il y aura suffisamment de voix de députés LR à voter demain la motion de censure déposée par le groupe centriste Liotte. Ce qui est certain, Marie Mollet, rebonsoir.
Rebonsoir.
C'est que les Républicains sont sous très haute pression.
Oui, et les pressions, elles sont venues de partout ce week-end. Hein. Des ministres, de la majorité, de l'opposition. Tout le monde avait un message à faire passer aux Républicains, à commencer par le patron du Rassemblement National, Jordan Bardella, sur C8. Écoutez ce qu'il a dit vendredi pour pousser les LR à voter la motion.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens aux Républicains, à droite, qui sont en train d'hésiter aujourd'hui. Et je veux leur dire qu'en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, le Rassemblement national ne présentera pas de candidat dans les circonscriptions où les députés des Républicains voteraient avec nous la motion de censure.
Alors vous avez bien entendu, c'est ce qui s'appelle du chantage, leur vote contre un arrangement en cas de dissolution. Le patron du groupe LR, Olivier Marleix, a déjà répondu un merci, mais non merci. Nos voix ne sont pas à vendre. Les pressions sont venues aussi directement de l'exécutif. Dans une interview au Parisien, Bruno Le Maire appelle les Républicains à reprendre leurs esprits, c'est-à-dire à voter contre la motion. Il tacle les égarés qui ont refusé de voter la réforme. Et puis ça se passe aussi dans un contexte où les LR subissent aussi la pression de la rue. Cette nuit, le patron du parti, Éric Ciotti, a vu sa permanence à Nice caillassée avec une inscription « Motion ou le pavé ».
Et au final, à l'heure qu'il est, on a une bonne idée ou pas de combien de députés LR pourraient voter la censure ?
Alors la direction de LR estime que 4 à 5 élus pourraient franchir le pas et voter la motion. Alors je vous accorde que ça devient un peu compliqué de se fier au calcul de l'état-major du parti puisqu'il s'est précisément trompé au moment de faire les comptes pour le vote de la réforme elle-même. Ce serait plutôt 8 à 10 selon les estimations d'un député LR opposé à la réforme. Mais bon, cela reste très minoritaire et très loin de la trentaine de voix venues des rangs de la droite qui seraient nécessaires pour que la motion soit votée demain. Des députés LR qui restent assez frileux, soit parce qu'ils estiment qu'on ne peut pas être de droite et voter une motion de censure, que ce n'est pas une attitude de parti de gouvernement, soit parce que certains redoutent une dissolution et n'ont aucune envie de repartir au front pour sauver leur siège qu'ils ont déjà eu tant de mal à arracher en juin. Donc conclusion, sauf grosse surprise demain, le gouvernement ne devrait pas tomber suite au vote de la motion de censure.
Merci Marie Mollet. On va rester quand même au conditionnel et accueillir le juriste et constitutionniste Dominique Rousseau. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur RTL en direct pour faire un peu de pédagogie et nous éclairer. Jeudi dernier, donc Elisabeth Borne a utilisé le 49-3 pour faire adopter sans vote ce projet de loi sur la réforme des retraites. Pour autant, la loi n'est pas encore mise en œuvre. Alors, quelles sont les dernières cartouches que peuvent utiliser les opposants à la réforme ? Il y en a une, on en parle depuis tout à l'heure, ce sont ces motions de censure qui seront discutées et votées demain. Ça peut, du coup, mettre un terme définitif à cette loi ?
Non. Effectivement, le vote d'une motion de censure est peu probable, mais évidemment pas tout à fait impossible. En revanche,
Après, il y a la saisine du Conseil constitutionnel.
Ouais.
Or là, il y a un vrai risque d'inconstitutionnalité de la loi sur les retraites, dans la mesure où le Conseil constitutionnel a posé depuis très longtemps un principe qui est celui de la clarté, de la sincérité des débats parlementaires, et il en vérifie le respect. Or, ce principe a été gravement, malmené, puisque il y a eu simplement 20 jours de débat à l'Assemblée nationale et les députés se sont arrêtés à l'article 2, alors qu'il y a 20 articles, donc il y a 18 articles qui n'ont pas été discutés. Au Sénat, 15 jours, et puis application de l'article 38 du règlement, un orateur pour, un orateur contre, ensuite le vote bloqué. Autrement dit, globalement, la procédure parlementaire suivie n'a pas permis que soit respecté le principe de la clarté et de la sincérité
du débat
parlementaire.
Donc vous nous dites que le Conseil constitutionnel pourrait censurer l'ensemble du texte?
Absolument. Et sans avoir à se prononcer, sans savoir à juger si 64 ans est conforme ou non à la Constitution. Il aura à juger si la voie choisie pour faire cette réforme est constitutionnelle ou pas. Or, de mon point de vue, la voie choisie n'est pas la bonne. D'ailleurs, Édouard Philippe, en 2019, avait choisi une loi ordinaire. Marisol Touraine, en 2014, une loi ordinaire. Éric Woerth, en 2010, également une loi ordinaire. Donc, si vous voulez, sans avoir à se prononcer sur le fond, c'est-à-dire 62 ou 64, est-ce que c'est contraire ou conforme à la Constitution, le Conseil pourrait juger que la voie choisie, je dis bien la voie choisie par le gouvernement pour faire adopter cette loi, n'était pas la bonne. Et c'est important, parce que vous en parliez tout à l'heure dans votre reportage, la recevabilité sociale d'une loi dépend de la qualité, dépend du mode de production de cette loi. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les gens sont dehors parce que cette loi a été très mal débattue.
Donc si je vous comprends bien, c'est quand même une hypothèse qu'il faut prendre en compte, qui a sans doute beaucoup plus d'épaisseur que l'éventualité d'un vote des motions de censure. Et j'ai envie de dire que ça permettrait aussi à tout le monde, j'allais dire, de sortir par le haut dans cette histoire.
Eh ben effectivement, si le Conseil constitutionnel censure la loi, non pas en déclarant que 64 ans est contraire à la Constitution, mais en jugeant que la manière dont on a délibéré n'est pas respectueuse du principe constitutionnel de clarté et de sincérité des débats, ça obligerait à ce moment-là à reprendre la réforme à zéro, à entamer sur une autre voie, la loi ordinaire, la discussion avec les organisations syndicales, une délibération au Parlement, le vote éventuellement d'une loi, ce qui améliorerait la recevabilité sociale de la loi.
C'est une hypothèse dont on parlera. Et quand est-ce que le Conseil constitutionnel doit rendre son avis ?
Il va rendre son avis un mois après avoir été saisi. Donc si la motion de censure ne passe pas, la loi sera donc en voie de promulgation, et donc les députés, les parlementaires devront saisir le Conseil constitutionnel lundi soir ou mardi au plus tard.
Merci Dominique Rousseau de nous avoir éclairé sur cette possibilité de censure globale du texte par le Conseil constitutionnel. Merci d'être intervenu ce soir dans le Grand Jury, le MAG. Il est 18h51. On va marquer une courte pause et après tout cela, essayer un peu de refaire la planète. Heureusement, Alain Bougrain-Dubourg est là.